Aujourd'hui, dimanche 17 décembre, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. Cette semaine, Emmanuel Jupiter Macron a organisé son petit sommet sur le climat. Petit sommet maxi bordel sur les routes et sur les ponts. Comme le président a fait faire une partie du chemin sur la Seine, certains ponts étaient fermés aux piétons. Fermés aux piétons, nom de Dieu! Moi, pour aller à la radio, j'avais juste à traverser le pont Mirabeau et hop, j'y étais. Eh ben non, je suis tombé sur un CRS qui m'a dit « Ah ben non, passe pas, c'est bloqué. » Oui, mais monsieur, je vais à la radio, là, vous voyez, c'est le gros truc rond juste en face. Bah, non, passe pas, c'est la sécurité. Mais fouillez-moi si vous voulez, si ça vous rassure. Non, t'as pas le droit, et moi, j'ai pas le droit de toucher à la population civile. Allez, dégagez. J'étais à bout, mais je vous l'avoue, très lâchement, j'ai fait demi-tour. Si j'étais resté à parlementer, ça aurait mal tourné, je le sens. Imaginez. Mais bordel, laissez-moi passer. Restez pas les monsieur, sinon ça sent la bavure. Je vais y aller à nage, pauvre con. Mais préviens, si tu mets un pied dans l'eau, je te tire dessus comme un crocodile. Bien sûr, ce sommet sur le climat a eu lieu un jour de grève des transports en commun. Sinon, c'est pas drôle. Eh oui. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez en région, vous mesurez la chance que vous avez de ne pas habiter à Paris. Vous les femmes. Bonjour et bienvenue dans Vous les femmes, l'émission qui ne s'intéresse qu'au... femmes, aux femmes de qualité, ça va de soi. Pour m'accompagner, l'homme qui a tous les talents rigoureux, mais spirituels, mais drôles, mais sexy, Albert Algout. Albert Algout, comment allez-vous ?
Je vais très bien, vous êtes de plus en plus gentil avec moi ou indulgent, je ne sais pas. Mais il faudrait surtout remercier les cousins avec lesquels je viens. Enfin, pas les miens, mais les cousins de personnalité.
Les cousins de personnalité qui vont nous assister tout au long de cette émission. On apprend à mieux la connaître un peu plus chaque semaine. Aujourd'hui, on va en apprendre encore plus sur cette femme. Oui, qu'on peut qualifier d'incroyable, c'est Christine, notre attachée de production. Bonjour Christine.
Bonjour Daniel.
Comment allez-vous ?
Mais très très bien.
Alors quoi de neuf ?
Alors ce week-end, j'ai fait un voyage.
Merci Christine, mais là ça devient un petit peu trop long. Autre élément incontournable de cette émission, vous les femmes, un homme aux questions et aux physiques qu'on peut qualifier de particulier. Il ne parle que par micro interposé et quelquefois il a fort à faire.
Je vais avoir peu de temps ici. Et ça sera pour répondre à vos sottises.
Et à vos sottises. Bah, c'était le délicieux...
Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon. Il est vraiment sympa. Chaque fois que vous le rencontrez, n'hésitez pas. Allez le voir, parlez-lui. Si vous avez un micro, c'est encore mieux.
Je ne me lasse pas.
Vous pouvez vous rendre une petite baffe. Hervé, vous avez été gentil avec les gens dans la rue, comme d'habitude.
Évidemment, et j'ai essayé de trouver des liens entre nos deux invités. Et si Albert est venu avec ses cousins, moi j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma fille, hein, comme elle a 22 ans aujourd'hui.
Il faut bon anniversaire.
Joyeux anniversaire.
À travers le micro, voilà. Allez hop, c'est fait.
Bon anniversaire. Et nos invités en ce dimanche 17 décembre sont... à ma droite, chemise blanche, gilet noir, Francisca Matteoli qui signe Map Cities, édition du Chêne, paru en octobre dernier. Face à elle, donc à ma gauche, un petit pull gris, chaussure marron. Leïla Slimani qui vient nous voir pour... deux ouvrages, Sexe et mensonges, édition Les Arènes, paru en septembre dernier, ainsi que Parole d'honneur, BD reportage, coécrit avec Laetitia Corinne, paru en septembre dernier également. Mesdames, bienvenue dans Vous les femmes ! Bravo ! Bon, c'est une présentation un petit peu courte, je l'admets, qui nous laisse un peu sur notre faim. Alors, pour mieux vous connaître, je vais laisser la parole à un de nos collaborateurs, le père Albert. C'est à vous, mon père.
Alors, j'ai lu avec beaucoup d'attention ton ouvrage, Leïla. Je tutoie les jeunes en recherche. Hein. Et si tes interlocutrices m'ont interloqué, ce n'est pas tant à cause de ce qu'elles racontent, avec une franchise qui outrepasse les limites de la bienséance et de la pudeur la plus élémentaire. Ce n'est pas tant parce que tu déplores qu'au Maroc, la loi punisse les relations sexuelles hors mariage, l'homosexualité et la prostitution, ce qui n'est hélas, plus de mise chez nous. Non, si je suis choqué, c'est parce que tu t'adonnes, avec ces créatures, à une pratique sacramentelle, jusque-là réservée à mes collègues et à moi-même. La confession. Et en plus, tu brises le secret qui en est une condition sine qua non. Bref, il est hors de question que mes jeunes en recherche lisent « Sexe et mensonges », qui ne sera pas mis à leur disposition dans ma camionnette patronage, qui fait aussi chapelle, salon de massage, agence pour l'emploi, SAMU social, kebab, salle de shoot, et j'y viens...
Arrêtez avec votre, bibliothèque, avec votre camionnette.
Alors, toi aussi, Francesca Matteoli, ton livre, Map Cities, Histoire de cartes, est passionnant. Mais vois-tu, lui non plus, il est hors de question qu'il prenne place sur les étagères de ma camionnette, dont je donnais les fonctions. Tout d'abord, parce que dans tes dérives poético-géographiques, tu ignores Rome. Si au moins tu avais reproduit un plan du Vatican, cela aurait un peu compensé tes égarements cartographiques, topographiques. Certes, tu consacres un chapitre à Jérusalem et au Saint-Sépulcre, là où reposa le fondateur de ma boîte avant de prendre son envol. Mais ce qui est plus que grave, parmi les villes que tu évoques et dont tu exhibes les cartes, il y a Babylone. Babylone dont tu rappelles que la Bible, et je te cite, page 130, Francisca, la présence sous les traits d'une prostituée parée de tous les atours, recelant tous les vices. Oui, Babylone, ville du stupre et de toutes les fornications. Babylone, antichambre de Sodome et Gomorre. Pas question que mes jeunes voient ça. Mais il y a plus grave, Francisca. De façon plus générale, je te reproche ta passion des cartes.
Les cartes, c'est assez inoffensif, mon
Tais-toi.
Père.
Tais-toi. Oh, non, c'est un péché mortel. Daniel, toutes les cartes incitent au péché. Le tarot des cartes anciennes, superstition. Les cartes routières, divagation. Les cartes bleues, corruption. Sans parler des cartes de France sur les édredons, masturbation. Les cartes sont les instruments du cartes du Maroc. Sont les instruments du démon. Bref, je suis désolé, Leila et Francisca, mais je vais devoir procéder sur vous deux un exorcisme flash afin d'extirper de vos âmes et de vos corps. Ce sera rapide. Le démon de toutes les tentations. Derogamus immundus spiritus diabolicus vitae sexulae marocchi et cartulorum vade retro exeat Leila Slimani et Francisca Matteoli corporum.
Ta mère dessine des cartes du Maroc en enfer.
Je te conjure, Belzébuth, sors du corps de Leila Slimani et de celui de Francisca Matteoli. Tu ne veux pas? Allez, alors rentre dans le mien. Oui, viens, viens. Ne te gêne pas. Fais comme chez toi. Non, pas comme ça. Pas comme... Oui, oui, comme ça. Vas-y, démon. Come into me. Take me. Prends-moi. Venge-toi. Ça marche, Daniel. Vous allez pouvoir continuer l'émission.
On peut continuer l'émission.
Merci, mon père.
Félicitations.
Bravo,
merci, Albert.
De rien. Bientôt Noël.
Oh la vache, vous m'avez foutu la trouille, ça va? Ça va? Parce que commencer par un exorcisme, ça peut faire peur.
C'est violent, mais c'est nécessaire.
Et c'est nécessaire, tout comme nos deux invités dans cette émission qui dure jusqu'à 18h, vous les femmes, sur France Inter. Lee Field and the Expression avec Time. Bonne journée à l'écoute de France Inter.
Time, The Feels and the Expression dans...
Vous, les femmes.
Et uniquement les femmes.
Daniel Morin.
Ah oui, les femmes vont apprécier.
Sur France Inter.
Leïla Slimani va revenir sur quelques dates importantes pour vous. Et on commence en 1999. Dur, dur, c'est le départ du Maroc.
Oui, je pars du Maroc, de Rabat, où j'ai grandi, où j'étais au lycée français, pour m'installer à Paris. Je suis inscrite à l'époque en classe préparatoire. Donc j'arrive ici à Paris, puis j'étais dans un foyer de jeunes filles. Ma sœur avait eu le droit d'être dans un petit studio, mais je crois que mes parents avaient un peu moins confiance en moi qu'en ma sœur. Donc moi, j'ai eu le droit au foyer de jeunes filles, qui était dirigé par un monsieur qui était... je vais dire ça gentiment, un peu raciste,
ouais.
Voilà, et qui s'amusait tous les jours à sortir mes cheveux frisés du truc de douche, là, du canal de douche, et qui arrivait tous les matins en disant « Évidemment, ces cheveux, on sait à qui ils sont, hein, et c'est ça qui pousse la douche de tout le foyer. » donc voilà, c'était pas les meilleures années de ma vie, mais bon, j'ai appris à aimer Paris au fur et à mesure du temps.
Un monsieur observateur et plombier à la fois.
Voilà.
Donc après vos études, vous envisagez un temps de devenir comédienne, vous inscrivez au cours Florent. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas poursuivi ?
En fait, c'était plus une passion qu'une véritable envie de bâtir une carrière professionnelle. Mmh. Quand j'ai terminé Sciences Po en 2004, j'avais quand même fait 3 années de prépa, 2 années de Sciences Po. J'avais beaucoup étudié, j'étais restée beaucoup enfermée chez moi à potasser, à apprendre des choses par cœur. Et j'avais envie d'autre chose. J'avais envie de monter sur scène, de m'exprimer, de rencontrer des copains, d'avoir voilà, une vie un peu plus bohème. Et donc, pendant 2 ans, je me suis inscrite au cours Florent. Et ça a été merveilleux parce que j'ai lu des textes merveilleux. Moi, j'adorais la littérature. J'ai pu apprendre aussi à dire des mots, à m'exprimer. J'ai appris l'esprit de troupe aussi, qui est une chose assez magique. Donc, c'était plus une envie sur le moment que véritablement un souhait professionnel.
D'accord. En tout cas, vous avez eu raison de le faire à ce moment-là, puisqu'après, ça s'enchaîne. Après un stage à l'Express, avec Christophe Barbier, vous rencontrez, qui vous propose de venir à l'Express, vous travaillez pour Jeune Afrique.
Exactement, je deviens reporter pour Jeune Afrique. Ce qui était assez étrange, c'est qu'en fait, donc moi, j'ai grandi au Maroc, mais effectivement dans un milieu assez bourgeois, très francophone, très très protégé. On était 3 filles, donc on avait des parents qui nous protégeaient beaucoup. Qui parlaient français, et j'avais le sentiment de pas vraiment connaître mon pays, de pas avoir la possibilité de dépasser la frontière de mon foyer familial. Et j'avais envie d'aller à la rencontre de mon pays et d'aller vers des choses vers lesquelles naturellement je serais pas allée. Et ce qui a été merveilleux avec Jeune Afrique, c'est que je suis partie au fin fond du Maroc, à Khouribga, à Beni Mellal. Je suis allée au fin fond de l'Algérie, de la Tunisie. Et grâce à ce travail, j'ai réussi aussi à découvrir une partie du Maghreb, à connaître aussi des problématiques que je n'aurais pas pu connaître autrement en tant que jeune fille bourgeoise d'un quartier cossu de Rabat.
Donc voilà, le boulot, le journalisme qui vous permet de redécouvrir. Donc 21 mars 2014, date très importante parce que jusque-là, vous envoyez des manuscrits aux maisons d'édition. Et à cette date-là, le 21 mars 2014, Dans le jardin de l'ocre est accepté par Gallimard. Et vous dites que là, merveille, tout a changé.
Oui, là, je reçois un coup de téléphone. Et puis ensuite, dans la même journée, je reçois un papier officiel, un contrat avec Gallimard. Je crois que pour n'importe quel aspirant écrivain, recevoir un papier avec écrit NRF dessus, Gallimard, Collection Blanche, bon, c'est une espèce de moment d'euphorie, d'enthousiasme, de fierté aussi.
Oui, c'est ça,
on
sent comment, on a envie de sortir, de hurler.
Bon, on a l'impression que c'est
complètement... On téléphone à tous ses proches.
Ouais, voilà, on téléphone aux gens en leur disant « Est-ce que tu peux venir à la maison ?»« Oui, mais pourquoi ? J'ai quelque chose d'important à te dire. » »« Mais quoi ? Je te dirai plus tard. » Voilà. Et on les attend avec le papier à la main et voilà, très très... on sautille très très ému. Et sincèrement, c'était une émotion aussi grande que le jour où j'ai reçu le concours. C'est vraiment pour moi une des émotions les plus grandes de ma vie. C'est le jour où j'ai été acceptée chez Gallimard.
Alors, juin-juillet 2017, juste petite question, c'est vrai ou c'est de ce que le président vous propose au ministère de la Culture ?
Non, j'ai discuté avec le président de plein de projets. Voilà, j'avais envie de m'impliquer, de faire des choses. Il m'a demandé dans quelle mesure je voulais m'impliquer. Je lui ai dit que moi, je voulais rester très libre, que ma liberté, c'était d'abord la chose la plus importante de ma vie. Ensuite, c'était ma façon de travailler, ma façon de vivre. Je ne voulais pas gagner d'argent. Je voulais pouvoir décider aussi de la façon dont j'allais travailler. Donc, voilà, il était évident que pour moi, j'aurais une mission qui serait plus libre comme celle que j'ai aujourd'hui autour de la francophonie.
Là, on vient à septembre 2017. Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc, édition des Arènes. Parole d'honneur, BD co-signée avec Laetitia Corinne, toujours aux Arènes. D'où vous est venue l'idée de faire ce livre ?
C'est arrivé au moment de la sortie justement de Dans le jardin de l'ogre où je me baladais au Maroc et puis je faisais des rencontres soit dans des médiathèques, dans des bibliothèques, voilà, dans différents endroits. Et à la fin de ces rencontres, il est souvent arrivé que des femmes viennent me parler me parler en particulier de leur vie intime. Moi-même, en tant que journaliste depuis des années, j'étais tout à fait consciente qu'autour de ces questions de la sexualité se jouaient énormément de scandales, de problèmes politiques, de problèmes sociétaux très importants au Maroc, mais dans l'ensemble aussi du monde musulman, on l'a vu depuis les révolutions arabes. Et donc, il m'est apparu évident que c'était un sujet assez urgent à traiter et qu'il fallait faire parler ces femmes autour de la question de la sexualité.
Alors, le constat est sombre, et c'est rien de le dire. Est-ce qu'il y a un espoir ?
Bien sûr qu'il y a un espoir. Déjà, le fait qu'on soit là en train d'en parler.
D'en parler déjà, c'est,
voilà,
c'est
pour
une
moi,
marche.
Déjà, d'en parler, c'est une première démarche. Le fait que des femmes aussi, à un moment, me regardent en face et me disent « Moi, je veux te raconter parce que je ne veux pas que ça reste sous le boisseau et qu'on continue à dire que ça n'existe pas. » Je pense aussi que la solidarité qui va se faire à la fois entre les femmes et aussi au-delà des frontières, le fait, moi je le vois notamment parce que je suis très active aussi pour la défense des homosexuels et la dépénalisation de l'homosexualité. Quand les homosexuels marocains peuvent construire des réseaux de solidarité avec les Tunisiens, avec les Égyptiens, qu'ils se rendent compte qu'au niveau international, on peut aussi les soutenir, parce qu'évidemment les démocraties occidentales, elles ont aussi à faire dans le soutien pour ces minorités. C'est là aussi que commence le combat. Donc bien sûr, construire des réseaux de solidarité et puis briser le silence. Surtout briser le silence, parce que le silence, il bénéficie toujours d'abord au système patriarcal et aux agresseurs.
Alors on parlait de l'interdiction de l'homosexualité, et aussi je rappelle à titre d'exemple que, vous le citez d'ailleurs dans le livre, l'article 490 du code pénal marocain, c'est l'interdiction d'avoir des relations sexuelles hors mariage. Ce qui peut paraître dingue.
Voilà,
nous,
au Maroc,
ici,
on ne peut être donc, si on s'en tient à la loi, on ne peut être que vierge ou marié. Mais on ne peut pas avoir de relations sexuelles entre les deux. Ce qui est d'autant plus absurde quand on regarde les faits, que aujourd'hui l'âge moyen du mariage au Maroc, il est de 28 ans, dans un pays où très très jeune, où il y a un chômage de masse, notamment un chômage des jeunes très important, qui fait que l'âge du mariage ne cesse de reculer, puisque les jeunes arrivent de plus en plus tard à l'autonomie financière, n'ont pas les moyens de se payer un appartement, etc. Et c'est tout un problème aussi du rapport que l'on a avec l'intimité. Quelle place on donne à l'intimité dans une société ? Quand vous ne donnez pas de place à l'individu, vous ne donnez pas de place non plus à l'intimité. Vous savez, le texte de Virginia Woolf, Une chambre à soi, ça n'est pas qu'un texte féministe, c'est un grand texte humaniste.
Universel.
Voilà, c'est un texte universel. Parce que quand vous voyez des jeunes Marocains, des jeunes Tunisiens, ce sont des gens qui vous racontent qu'ils n'ont jamais eu de leur vie une chambre à eux, pour réviser un examen.
En Algérie, c'est
pour,
la même
voilà,
chose.
C'est pareil,
aussi.
Pour inviter une petite copine.
Pour être un peu seul.
Pour rêver, ouais, pour rêver simplement. Ouais. Et je pense que ça, c'est très très important, cette question de l'intimité, de la solitude. Ça devrait être un droit et une possibilité pour chacun d'avoir un moment et une chambre à soi.
Ce qui est singulier, c'est la personne qui parle de l'intimité de manière pertinente, c'est un homme, c'est un policier, Mustapha, dans Sexe et mensonges. Il dit que le grand problème, il n'y a pas beaucoup de place dans ce pays pour l'intimité, la compassion et la tendresse. C'est un homme qui dit ça.
Oui, bien sûr, et c'est assez touchant parce que c'est un homme qui... Je pense au départ devait être assez traditionnaliste, dans la majorité, voilà. Mais c'est quelqu'un qui, parce qu'il a vu, par son expérience en fait de policier, c'est un peu comme ce que je disais avant sur l'écrivain. Parfois, c'est en vivant un certain nombre de choses qu'on finit par arrondir nos angles de vue. On se rend compte que les choses sont moins simples, moins blanches et noires, qu'elles sont beaucoup plus grises. Et c'est un homme dont j'ai senti qu'au fur et à mesure, il avait passé moins de temps à juger les prostituées, à juger les femmes adultères et à se rendre compte que tout ça aussi était le fruit de tout un système qui poussait un certain nombre de gens à vivre dans une grande marginalité et dans l'exclusion en réalité.
Là, vous parlez de la prostitution et vous évoquez aussi dans votre livre le film de Nabil Ayouch, Much Loved, un film hyper dur qui a créé un tollé au Maroc.
Oui, qui a créé un tollé aussi parce qu'on a un autre problème au Maroc et qui n'est pas seulement le fait du Maroc, mais d'un certain nombre d'autres pays. Je crois qu'au Maghreb, c'est le cas un peu partout, sauf peut-être en Tunisie. C'est la difficulté qu'on a à se regarder en face, à regarder en face notre société, c'est-à-dire à ne pas vivre simplement dans notre idéal de société. Comme on a une religion qui est très importante, comme on a des valeurs traditionnelles qui sont très importantes, on veut se vivre comme un peuple vertueux, un peuple pudique, un peuple religieux, et que tout ce qui va à l'encontre de ça, tout ce qui le contredit, on ne veut pas le regarder. On fait comme si ça n'était qu'une espèce de marginalité qu'on ne peut pas supporter. Or, je pense qu'il est très très important qu'on ait, au contraire, qu'on se regarde, qu'on développe notre esprit critique, qu'on soit capable de regarder la réalité en face. Et en plus, c'est très mal vécu quand ceci est dit par quelqu'un qui est considéré comme moi, comme occidentalisé, parce que du coup, on considère que c'est une vision occidentale. Or, moi, je ne défends pas...
Vous avez été pollué un peu.
Moi, je ne défends pas une vision occidentale. Moi, je défends des valeurs... Voilà, moi, je défends des valeurs que je considère comme universelles. Mais évidemment, c'est très facile de la part de mes détracteurs de dire qu'elles sont occidentales. Mais pour moi, l'égalité, ce n'est pas occidental. Ça appartient à tout le monde.
Mais justement, Daniel évoquait le film Much Love dans lequel jouait la comédienne Lubna Abidar, qui a été sauvagement agressée suite à ce film. Vous n'avez pas peur, vous, par rapport à ce que vous écrivez, que de subir des conséquences de ça?
Mais pour moi, la question ne se pose pas. Si on commence à avoir peur, on ne défend jamais les valeurs qui sont importantes pour nous. Je veux dire, eux n'ont pas peur, pourquoi moi j'aurais peur? Eux, ils défendent avec force et avec grand bruit leurs valeurs qui sont ce qu'elles sont. Moi, je défends aussi les miennes. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Et puis en plus, je considère que si on a peur, c'est qu'ils ont gagné. Et ça, moi, je le refuse absolument. Il est impossible aujourd'hui de les laisser gagner. Donc la première victoire, je pense, de chacun, c'est de ne pas avoir peur.
Donc, Sexe et mensonges et paroles d'honneur, et vous dites ce livre, on peut dire ces deux livres, c'est un appel à la liberté universelle d'être, d'aimer et de désirer.
Exactement.
Voilà. Et tout magnifiquement, j'ai envie d'ajouter.
Merci, non, je l'ajoute. Merci.
Nous allons passer à vous, Francisca. Francisca Matteoli, pareil, les dates qui ont été importantes pour vous. On commence en 1975, et c'est là que vous vous rendez compte qu'il n'y aura pas de retour au Chili, le pays d'où vous venez.
Oui, c'est-à-dire qu'à cette époque, le Chili était déjà passé par une situation politique vraiment très très dramatique. Et mes parents, moi, ma sœur et mes grands-parents, on avait décidé de venir vivre en France. Mon père avait fait ses études en France, mon grand-père aussi, une partie du moins. Et ils ont choisi de venir en France en pensant que ça allait durer quelques mois, un an au plus. Et puis finalement, on a compris à un moment donné qu'on ne pourrait pas retourner chez nous. Bon, mes parents, évidemment, ils connaissaient déjà l'Europe, mais ma sœur et moi, on n'était jamais venus en Europe. Je ne parlais pas un mot de français, je n'avais jamais connu la France. Je vivais au sud de Santiago, on avait une propriété exactement à Rancagua, donc je vivais à la campagne. Je n'avais jamais été dans une grande ville, d'ailleurs, non plus. Et donc, je l'ai vécu vraiment d'une manière très dure, parce que c'était vraiment comme tomber dans un trou noir, parce que quand on arrive dans un pays dont on ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes façons de se comporter, l'Amérique du Sud est un pays où les gens sont plutôt spontanés, donc ici évidemment les choses étaient un peu plus dans la retenue, mais il n'y avait pas que ça, il y avait les problèmes politiques, il y avait le fait que les Français n'avaient jamais entendu parler du Chili, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, les Français voyageaient beaucoup moins que maintenant, et aujourd'hui ils vont dans le désert d'Atacama, ou ils vont en Patagonie, mais quand moi je suis arrivée en France, le Chili, les gens ne savaient pas du tout où c'était, ils ne savaient pas quelle langue nous parlions, d'ailleurs nous étions plutôt considérés comme des sous-développé, pour tout dire. L'Amérique du Sud, pour les Français, c'était un pays où les gens étaient quand même à la limite d'être des Indiens. C'était
c'est marrant parce
un peu
que,
ça.
Pris à l'envers, c'était une des fiertés, je crois, de votre grand-père qui vous disait « on est à l'autre bout du monde, regarde ».
Oui, mon grand-père adorait les cartes. Mon grand-père était un homme extrêmement instruit qui était venu en France, à une époque où les gens d'Amérique du Sud venir en France, c'était quand même un voyage extraordinaire. Et mon arrière-grand-père aussi est mort en France. Donc moi, j'ai une destinée française en un sens qui, d'ailleurs, je ne m'explique pas et qui m'effraie un peu parce que je me dis je vais mourir en France et à quoi cela tient, je ne peux pas l'expliquer puisque depuis trois générations nous mourons tous en France. Donc j'ai dit à mon mari, écoute, ce jour-là, quand tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, essayons de couper cette destinée d'une manière ou d'une autre parce qu'il y a quelque chose de fatal là-dedans qui m'effraie un peu. Donc cette arrivée en France a marqué le début d'un changement total de mon destin. Je me suis rendu compte que les choses n'étaient jamais acquises, que la destinée pouvait basculer du jour au lendemain, parce qu'en fait c'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Nous avons appris d'un jour à l'autre que nous ne pourrions plus rentrer chez nous. Oui. Ça a marqué mon destin.
Donc un début d'histoire un peu similaire comme vous, Leïla, on quitte un pays pour se retrouver en France, mais là dans des conditions qui sont hyper difficiles. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir rentrer chez moi, ça va être atroce.
Oui, c'était dur. On peut dire ça comme ça, oui.
On va passer à quelque chose de plus joyeux. On passe à l'an 2000, directement, premier reportage pour National Geographic. Le Rwanda.
Oui, alors, bon, enfin, c'est moyennement gay, mais ça... Non, il y a une partie gay quand
premier
même.
Premier reportage, je suis contente, je vais en Rwanda, je retourne quand même, mais bon, ça va être difficile. Voilà.
Non, il faut dire que, bon, moi j'étais très mauvaise dans les études, alors contrairement à Leïla, je ne me suis pas du tout distinguée. Comme j'avais beaucoup de mal à vivre les premières années que j'ai vécues en France, évidemment, je n'ai pas passé mon bac, j'étais renvoyée de partout, enfin, ça ne marchait pas du tout. Par contre, j'étais très bonne en français, j'étais très bonne en langue, ma mère est écossaise, mon père est chilien, et j'ai beaucoup de famille à l'étranger, donc déjà à 10 ans je parlais 4 langues couramment, j'en ai appris d'autres, donc tout ça pour moi c'était naturel, et mon rêve c'était de travailler pour National Geographic et d'écrire des récits de voyage, parce qu'en fait comme j'avais beaucoup souffert qu'on ne connaisse pas le Chili, je voulais faire connaître le monde aux gens, pas du tout d'une manière prétentieuse, mais je me disais, si j'écris sur le voyage et d'une manière légère, ça donnera peut-être envie aux gens de connaître des pays, de connaître des cultures. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu mon but aujourd'hui.
Donne envie de s'en bouger un peu.
Oui, et d'aller vers des choses qui soit les amusent, les intéressent, mais pas forcément d'une manière lourde. Et je voulais surtout pas parler des questions politiques que j'avais vécues d'une manière très dure. Je voulais pas retomber là-dedans, d'abord pour moi-même, mais en plus, je voulais apporter un peu de légèreté dans l'idée du voyage. Et National Géographique, pour moi, c'était un but ultime, parce que d'abord, ici en France, National Geographic, le magazine n'est pas aussi connu qu'à l'étranger, mais à l'étranger et particulièrement aux États-Unis, c'est une légende. C'est iconique, c'est une légende, c'est mythique. Et moi, quand je pensais à écrire des récits de voyage, je pensais National Geographic. Oui, c'était mon but.
C'est arrivé.
Voilà.
Oui. Et National Geographic, en 2007, vous donne tort à ce que vous disiez en 1975. Finalement, vous retournez au Chili.
Oui, alors je suis retournée au Chili justement avec National Geographic. Mmh. Alors là, c'était complètement différent du Rwanda. Alors je rentrais chez moi en gloire et majesté, si vous voulez.
Où est le tapis rouge.
Voilà, c'était un peu ça.
En carrosse dorée.
J'exagère un peu, mais j'ai contacté tous les gens que je connaissais au Chili pour leur annoncer que je rentrais avec National Geographic, que je faisais un reportage. Et non seulement un reportage sur mon pays, mais un reportage exactement sur l'endroit où j'avais vécu mon enfance. Parce que c'était au moment des fêtes nationales. Il se passe toujours beaucoup de choses au Chili à ce moment-là. Donc visuellement, puisque c'est ça la force de National Geographic, il y avait beaucoup de choses à faire. Et je suis partie avec un très grand photographe qui a sorti des images extraordinaires de ce reportage. Mais ensuite, je suis partie donc sur les lieux de mon enfance. J'ai raconté cette histoire dans National Geographic. Et l'anecdote en question dont je parle, qui reste vraiment gravé dans ma mémoire, c'est que j'ai béni les portables, parce qu'à un moment, je me trouvais dans un rodéo. Mon père avait été un grand cavalier. C'était quelque chose que je savais lui manquer énormément, parce que c'était un homme qui aimait vivre dehors, c'était un homme de la campagne. Il avait trouvé un travail de bureau en France, mais il avait été malheureux toute sa vie de pas pouvoir retourner à la campagne. Et à un moment, je me suis trouvée dans un rodéo, les rodéos que lui-même faisait. Il y avait un haut-parleur qui donnait les résultats du rodéo. Et là, j'ai pris mon portable, j'ai appelé mon père à son bureau, j'ai mis le portable contre le haut-parleur et j'ai dit à mon père, devine où je suis. Et là, il a écouté ça, il m'a dit, tu es dans le rodéo numéro 15 de Rancagua. Et donc, il est rentré au Chili de cette manière-là.
Ça, il voulait apporter un petit peu de Chili au travers du téléphone portable.
Oui, pour D'accord. lui, ça a été extraordinaire.
En tout cas, joli geste. Et comme quoi, le téléphone portable, de temps en temps, on peut s'en servir pour autre chose que pour blablater. Voilà, pour faire plaisir à son papa, par exemple. En 2017, date hyper importante pour vous. Vous venez à vous, les femmes.
Si, le 17 décembre.
Le 17 décembre, évidemment, pour nous présenter votre livre magnifique, Map Cities, très édition du Chêne. Donc, des cartes de villes de tous les continents. Alors, j'en cite quelques-unes. À Mexico, Pékin, Jérusalem, Le Caire, Pompéi, Babylone, dont nous a parlé le père Albert tout à l'heure, Édimbourg ou Paris. Ça raconte quoi, l'histoire des cartes?
Ben moi, j'ai toujours rêvé, parce que d'abord, comme je vous l'ai dit, mon grand-père avait une très grande collection de cartes. Et quand on était au Chili, comme le Chili, c'est le bout du monde, et qu'on est coincé entre la cordillère des Andes et l'océan, eh bien, on regardait toujours ces cartes. Moi, je me disais, tiens, un jour, j'irai là, un jour, j'irai ici. Enfin, je rêvais vraiment sur le papier. Et donc, quand j'ai voulu faire ce livre, j'ai pris un peu de la collection de mon grand-père, et puis ensuite, j'ai pensé aux endroits aussi qui me faisaient rêver, parce que dans ce livre, il y a des récits personnels qui sont à la première personne, d'endroits que je connais bien. Et puis à côté de ça, j'ai voulu mettre aussi des cartes qui sont du domaine purement du rêve. Par exemple, bon, vous parliez de Babylone.
Et vous, Léla, quand vous tombez sur des cartes de villes qui n'existent plus ou qui existent toujours, ça vous fait rêver, ça vous transporte, vous voyagez un peu avec.
Moi, j'adore ça. Avec un de mes meilleurs amis, quand j'étais petite, nous, on faisait des cartes de villes qui n'existent pas.
Ah, mais
et
oui,
donc, on
formidable.
Faisait chacun nos cartes de villes on s'imaginait comment on appellerait les avenues, comment on appellerait les ponts. Et c'est extraordinaire pour l'imagination. Inventer une carte, parce que vous inventez forcément, bien sûr, des personnages, une géographie, une façon de vivre. C'est magnifique. Oui, moi, je l'ai reçu. J'ai eu la chance de recevoir
dans ce livre, les cartes,
à la maison.
Très grande diversité.
Oui.
C'est des cartes de toutes époques.
Ah oui, non,
des cartes de Portulan, des cartes plus récentes, des cartes du 19e siècle. Par exemple, l'entrée que vous faites sur Paris sont les cartes de l'exposition universelle.
Oui.
C'est absolument formidable. formidable. Oui, c'est oui. à la fois baroque, belle époque, c'est absolument remarquable. Esthétiquement, c'est un livre magnifique.
Oui, nous avons cherché vraiment l'esthétisme et que ce soit voilà. Vraiment très beau.
Il n'y a pas que nous qui le trouvons beau. Regardez, je cite le magazine Géo, classe Map Cities comme un des livres préférés. Pour Noël.
Ah non, c'est un très très beau livre. Ah ouais, c'est un cadeau magnifique pour
oui,
les fêtes.
Merci,
ah
oui, merci, c'est l'idée. Oui,
je vous en prie. Mesdemoiselles, on va parler un petit peu musique. On vous a demandé un titre qui vous rappelait un bon souvenir. On va commencer par vous, Leïla Slimani.
Une chanson douce que me chantait ma maman. En suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant.
Une chanson douce, qu'est-ce que ça vous rappelle, Leïla?
Bah, ça me rappelle le jour où j'ai terminé mon roman Chanson douce et où j'ai eu un coup de fil de mon éditeur qui m'a dit « Maintenant, il va falloir trouver un titre ». Et je me suis dit « Oh là là, moi je suis nulle en titre, j'ai toujours été nulle en titre, même pour mes articles et tout ». Et tous les soirs, quand je couche mon fils, je lui chante une chanson douce. Et j'étais donc dans la chambre de mon fils en train de chanter cette chanson. Et vous savez, j'ai eu la petite ampoule qui s'est allumée là. Ouais. Dans,
celle de Joe
voilà,
Trouve-Tout.
Exactement. Et j'ai dit « Bah voilà, c'est ça le titre, chanson douce ». Donc ça me rappelle cette période bénie. Justement.
Il a marché ce livre ou pas?
Oh, moyen.
Ouais. Bon, je rappelle que c'est le prix Goncourt. C'est juste le prix Goncourt 2016. Quand on gagne le Goncourt, on est dans quel état? Tout à l'heure, on
parlait
du.
On est heureux. Franchement, on est heureux.
Premier livre publié. Là, le Goncourt aussi, c'est la même sensation ou déjà. On
bah, c'est une
publié,
sensation
on a déjà
complètement
un
irréelle. Alors, oui. Moi, j'ai mis énormément de temps à me rendre compte que c'était vrai. C'est totalement irréel. Et puis, moi, en plus. Je rentrais pas totalement dans le moule du Goncourable parce que j'étais une femme, moi j'étais enceinte.
Oui, c'est ça, elles sont pas légion les femmes qui.
Voilà, on n'est pas nombreux, je crois qu'on est 12, je suis la 12e en 104 ans, donc on n'est pas.
Vous avez dit que vous étiez enceinte?
J'étais enceinte.
Donc vous êtes la seule femme enceinte à avoir
reçu. Femme enceinte, ouais, ça, voilà.
S'il vous plaît, seule
voilà,
femme enceinte.
Merci.
Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc j'étais vraiment dans un état assez extatique, mais je trouve qu'on reçoit, énormément. C'est vraiment une période de ma vie où j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup reçu. Et c'est pas si courant dans sa vie de recevoir autant, d'avoir tellement de gens que vous ne connaissez pas, qui viennent, qui vous embrassent, qui vous remercient pour quelque chose que, en fait, que vous avez fait aussi pour vous.
Pour
parce
vous,
qu'un
départ.
Livre, on l'écrit pour soi aussi. Et c'est extraordinaire de voir aussi la générosité des gens et leur envie de vous donner quelque chose. Et ça m'a beaucoup marqué.
Votre emploi du temps était plus serré la semaine où vous avez gagné le Goncourt ou la semaine où vous avez été chargé de mission à la francophonie?
La semaine où j'ai... Non, les deux à égalité, ouais. Mais disons que j'avais pas le même état d'esprit. Après la semaine du Goncourt, maintenant je sais gérer ce genre de semaine. La semaine du Goncourt, j'étais un petit peu plus étonnée.
Interdite, voilà. Francisca Matteoli, maintenant on va parler de la vie au Brésil en 1988 et pour l'illustrer.
Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda passar.
Qu'est-ce qu'on entend là?
C'est un autre genre, c'est Gaetano Veloso, a banda, ça c'est vraiment. Alors j'ai qu'à entendre ça, déjà ça me met de bonne humeur.
Ouais.
Parce que ça, ah oui, parce que ça me rappelle vraiment des souvenirs super.
Quels souvenirs?
Bah, je voulais partir au Brésil, je voulais retourner en Amérique du Sud, j'ai eu une opportunité. Et j'ai sauté dessus. Et...
J'ai l'impression que vous avez pas mal de galères, mais vous faites aussi bien ce que vous voulez, hein, quand même.
Bah, c'est-à-dire que j'avais.
J'y arrivais quand même. Hein.
Oui. J'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire, et quand l'occasion s'est présentée, en fait, on dit souvent que quand on a une idée derrière la tête, bah, quand elle se présente, on a plus de chances de l'attraper. Et c'est sûr que là, en l'occurrence, quand on m'a proposé un poste au Brésil, dans une marque de cosmétiques bien connue française, bah, on parle de la francophonie.
Voilà.
Alors, voyez, là, voilà. Et donc, je parle. Je parlais pas brésilien d'ailleurs, j'ai appris en une semaine parce qu'il m'avait dit en arrivant, est-ce que vous parlez brésilien, enfin portugais, brésilien, ouais. Donc moi j'ai dit oui, parce qu'évidemment une fois que j'étais sur place, j'allais pas revenir chez moi ici, donc je me suis installée dans un café et puis j'écoutais les gens et je regardais comment les vendeuses vendaient les choses et tout ça, et en une semaine, au bout d'une semaine, je me suis repointée au bureau de cette société que je ne nommerai pas, et donc là, là ils m'ont dit, bah, écoutez, je pense qu'on peut se débrouiller, donc ça c'était des super souvenirs.
Souvenirs
vraiment.
Excellents, ah, oui. J'imagine bien. Attention oui. Maintenant, on va moins passer aux souvenirs excellents, mesdames. Leïla Slimani, Francesca Matteoli, on va revenir très brièvement sur vos parcours, sur vos personnalités, mais façon France Inter. Ouais, façon Inter, ça veut dire qu'on va mettre en avant un petit peu la tristesse.
Les fêlures.
Le malheur.
Les fêlures. La souffrance. La souffrance.
J'adore ce mot.
Et la lutte des classes.
Ah non, pas la lutte des classes.
Vous n'avez pas le choix, c'est
la
parti.
La lutte des classes, mince alors.
Francisca Matteoli, journaliste de formation, tireuse de cartes quand ça lui chante et accessoirement tour opérateur, est une femme de savoir et de curiosité. S'inquiète-t-elle pour autant du sort de ceux qui n'ont pas la chance comme elle de vivre dans l'univers d'ultra-luxe dans lequel elle baigne?
Non, bien sûr que non. Elle passe son temps dans des avions en classe business, voire en first, pour aller de palace en plage de rêve pour prendre en photo. Photo qu'elle revend à grand prix aux pauvres gueux qui n'auront jamais les moyens d'aller les voir in vivo. Elle est belle, elle est très belle, Francisca, mais méfiance. Méfiance aussi concernant Leïla Slimani. Leïla Slimani, romancière, journaliste, qui faillit être actrice, est une femme remarquable. Remarquable, certes, mais a-t-elle pour autant du cœur ? Est-elle une femme de cœur ? Non, bien sûr que non. Copine des élus de la République et ce jusqu'à son plus haut sommet, elle s'en fout comme de son premier Becherel des conditions inhumaines dans lesquelles vivent les pauvres gens qui l'entourent. Non, Madame Slimani est bien trop occupée à aller de réception au cocktail aussi mondain qu'à Vinet, où sous prétexte de défendre la francophonie, elle s'éclate avec les élites. Confortablement installée sur le matelas de milliards d'euros rapportés par son concours, elle mène la Dolce Vita 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, voire 366 en année bissextile. Francisca Matteoli, Leïla Slimani, vous êtes peut-être des exemples à ne pas suivre, mais nom de Dieu, ce que c'est bon de vous avoir avec nous aujourd'hui. Leïla, Francisca, ne changez rien.
Voilà, c'était une petite présentation.
Ah oui, excellent.
Mais oui, et oui. Mexican Institute of Sound, Amérique centrale. Nous allons faire un petit tour à Mexico. Vous les femmes, jusqu'à 18h sur France Inter.
Son sicarios. Muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo. Que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México. Estado fallido, campeón. Orgullosos patios traseros. Al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba.
Il était temps que ça s'arrête, hein, ils étaient au bout du rouleau, hein, les pauvres amis. Là. Mexican Institute of Sound avec Mexico, dans Vous les femmes, bien entendu, sur France Inter. On est ensemble jusqu'à 18h.
Vous les femmes.
Oh, ange de douceur,
Daniel Morin,
ouais, étant ouais. Sur ma souffrance,
sur France Inter,
le charme caressant de ta douce présence,
Et vous les femmes, quelles femmes ? Francisca Matteoli qui vient nous voir pour Map Cities aux éditions du Chêne paru en octobre dernier et Leïla Slimani pour deux ouvrages, Sexe et mensonges, édition Les Arènes paru en septembre dernier et aussi la BD reportage Parole d'honneur coécrit avec Laetitia Corinne en septembre dernier également. Leïla Slimani, qu'est-ce que c'est votre mission à la francophonie ?
Alors ma mission, elle consiste d'abord à faire revivre justement ce concept de francophonie en France et partout dans le monde, de mettre en avant tout ce qu'il y a de vivant, d'incarner tous les projets, notamment culturels, mais pas que, projets économiques aussi, projets dans le numérique, qui existent par la francophonie, donc de les faire vivre. Et puis aussi, moi je suis une espèce de courroie de transmission, c'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui me contactent, qui me disent « moi j'ai un projet là-dedans », et un autre qui me contacte également, donc je mets les gens en relation.
Vous n'êtes pas débordé par les projets ?
Non, parce que vraiment, il y a des choses, je vous assure, tellement passionnantes. C'est incroyable à quel point la langue française, c'est une langue à travers laquelle il y a énormément d'histoires.
Se porte bien le français ?
Le français se porte très très bien. Vous savez qu'on n'a jamais autant appris et jamais autant parlé le français que cette année, par exemple. On est à des taux extraordinaires et puis il y a des nouveaux horizons qui s'ouvrent. Aujourd'hui, le français, par exemple, s'apprend énormément en Chine, en Corée, au Costa Rica, qui est un pays qui est en train d'investir énormément sur l'apprentissage du français, au Nigeria et au Ghana, deux pays anglophones qui investissent sur le français. Donc voilà, je vais monter plein de projets. On va créer un grand parlement des écrivaines francophones, donc qui va permettre de réunir des femmes des cinq continents qui écrivent et qui débattent en français pour parler de ce que cette langue représente pour nous.
Pourquoi mais des françaises
ou des... Non, des francophones, des femmes simplement qui parlent français. Ah. Donc ça, voilà, des femmes, exactement, je pensais à vous en vous entendant
mais c'est
parler.
Intéressant,
hein. Et en fait, il y a vraiment des parcours absolument extraordinaires. Et Francesca en est tout à fait l'incarnation. Il y a des gens qui, par amour aussi de cette langue, ou par les hasards de la vie, se sont retrouvés à embrasser cette langue, qui est une langue extraordinaire, et qui ont ensuite parcouru le monde grâce à elle. Et je pense qu'il faut redonner, voilà, à cette langue, sa diversité, son ouverture, dire que le français, ça n'est pas seulement la langue de la France, c'est une des seules langues du monde, avec l'anglais, à vivre sur les cinq continents, à être parlé par des gens de toutes les religions, de toutes les cultures, de tous les milieux sociaux. Et c'est la preuve que, contrairement à ce que nous disent beaucoup de gens qui veulent tout le temps ériger des murs, et ce que nous disent beaucoup de gens qui veulent toujours mettre en avant le relativisme culturel, eh bien non, il y a des frontières qui sont dépassables.
C'est pas juste la langue des colons ?
Non, aussi, voilà, c'est pas juste la langue des colons. Moi, je suis Leïla Slimani, née en 1981, deux grands-parents qui se sont battus contre la colonisation, mais en même temps, personne ne me fera dire que je suis juste une victime de la colonisation quand je parle français ou juste une traître à ma cause. Cette langue, c'est la mienne, et je n'ai plus besoin, je ne ressens plus le besoin de le justifier. C'est une langue que j'aime, que j'ai embrassée en toute liberté, voilà, pas parce que je l'ai subie. Et je trouve ça beau de célébrer ça et de ne pas être seulement dans une posture victimaire.
Mais c'est vrai que quand vous dites ça, excusez-moi, je rebondis, c'est quand je pense que mon père a fait ses études en France, mon grand-père, mon arrière-grand-père, enfin tous, le premier endroit où ils ont pensé à aller quand ils devaient quitter le Chili, ils ont pensé à la France. Hein. Donc ça prouve que depuis de nombreuses années, de génération en génération, on s'est transmis cet amour de la France.
Bien sûr, et qui a été une langue de libération pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de peuples, beaucoup de pays où les intellectuels, quand ils se trouvaient dans des conditions où ils ne pouvaient plus exercer leur travail, où ils avaient peur. Par exemple, regardez les Iraniens, regardez certains Libanais, regardez, ils viennent en France, ils embrassent aussi la langue française. C'est une langue qui attire, pour laquelle beaucoup de gens ont un immense appétit, ce qu'on ne mesure pas toujours quand on est ici. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est une langue qui attire beaucoup.
Albert, vous qui, dans une vie précédente, avez été professeur de français, vous voyez ça comment, la francophonie ?
Ah ben, la francophonie, je le vois par la littérature. Il ne faut plus parler de littérature française, il faut parler de littérature de langue française. Les grands auteurs, ils sont belges, ils sont suisses, ils sont sénégalais, ils sont québécois et d'autres,
oui,
bien d'autres nations.
Francophonie, il faut
pour lesquelles je milite, et j'en ai parlé au ministre de l'Éducation, c'est par exemple qu'on enseigne plus d'écrivains et d'auteurs francophones. Il est vraiment dommage qu'au brevet, au baccalauréat, les élèves dans l'Hexagone ne se rendent pas compte que la langue française est aussi une langue qui a des poètes qui ont grandi, effectivement, à Dakar, à Alger ou ailleurs. Et c'est important, je pense, que les jeunes...
Et des musiciens aussi. Quand on voit que Charles Aznavour, à 93 ans, il véhicule la langue française à travers le monde entier, c'est quand même un exemple extraordinaire.
C'est merveilleux.
Tony Bennett, à côté, c'est un gamin. Non, mais
c'est un petit gamin, tout petit monsieur. Et voilà. Oui. Francisca, vous avez envie de parler. Parlez-nous de l'association Chirurgie Plus.
Mon mari a travaillé longtemps pour des organismes humanitaires. Il est chirurgien. chirurgien, et à un moment donné, nous étions ensemble au Cambodge, et quand on travaille comme ça, quand on est chirurgien pour des organismes humanitaires, en fait, c'est du travail non-stop dans les pays où on va, donc on n'a pas le temps vraiment d'apprendre des choses aux chirurgiens avec lesquels on travaille. Et donc ça, c'est quelque chose qui le frustrait beaucoup, et moi, je suis partie avec lui très souvent, et en rentrant du Cambodge, un jour, on a commencé à réfléchir à ce qu'on pouvait faire, parce que lui voulait créer quelque chose, qu'est-ce qu'il pouvait apporter, comment il pouvait véhiculer son savoir, etc.
Et alors, c'est quoi le but ?
Alors voilà, l'offre à des chirurgiens de tout pays, mais principalement à des chirurgiens de pays francophones, la possibilité de venir un mois à Paris, parfaire leur formation dans les meilleurs services.
Et c'est tout type de chirurgie ?
Voilà, toute chirurgie confondue. Et chaque mois, nous avons un chirurgien différent, d'un pays différent, et ça fait 10 ans que ça dure. Nous faisons un événement chaque année pour récolter des fonds dans un grand hôtel parisien, et nous avons des grandes marques de luxe. Vous parliez du luxe donc, dans lequel je me vautre. Voilà, donc je me vautre à cette occasion dans le grand luxe.
Vous avez raison.
Pour récolter des fonds pour une bonne cause. Il ne s'est pas passé un mois sans que nous recevions un chirurgien.
C'est formidable. Donc vous permettez à des gens de parfaire justement leur technique.
Oui.
Au sein des meilleurs
hôpitaux. Parce qu'on a voulu que les gens puissent se débrouiller seuls, en fait, c'est ça.
Association Chirurgie Plus, Francisca Matteoli vient de nous en parler. Les amis, mesdemoiselles, pour évoquer vos actualités respectives, j'ai envie de laisser la parole à un homme plein de sagesse et de connaissances, c'est Jean-Dominique Besnéard, qui est, si vous voulez, l'orthophoniste officiel des stars. Jean-Do, c'est à vous.
Salut les filles.
Salut Jean-Dominique.
Oui, me revoici un sacré laps de temps que je ne suis pas venu dans ce studio. Il faut dire qu'avec mon job d'orthophoniste, je vous viens d'en parler, pas de confusion avec mon cousin, l'ex-agent des stars. Moi, je suis orthophoniste des stars. Qu'est-ce que je disais déjà ?
Je ne sais pas.
Ah oui, avec mon job, je ne m'en sors pas. Je bosse même le dimanche comme vous, Daniel.
Et pourquoi est-ce que vous venez nous voir, Jean-Dominique ?
Ah ben, si je suis présent, c'est parce qu'aujourd'hui, vous invitez chez la classe.
Ah, ça.
Hein, ça change des semaines précédentes. Hein. Ah. Aujourd'hui, Francisca Simani, reportrice. Leïla Simani, autriche.
Non, je n'ai pas d'Autriche.
Bah, écoutez, à chaque fois, vous me refaites le coup.
Autriche, pas du tout.
Un auteur, une autriche. Hein, moi, ça me
gêne.
Mon cousin, il dit bien un acteur, une actrice. Alors, je féminise comme ça me chante. Et vous fermez.
Bon, je disais donc,
Leïla Simani, autrice de 2 romans, donc Chanson douce. Une chanson douce, comme me chantait ma maman.
Oui, on la connaît.
En prenant ma douche. un ouvrage sans ça, ce serait compliqué par un prix Goncourt, on en parlait. Maintenant, voici Sexe et mensonges, la vie sexuelle au Maroc. Ça m'a bouleversé.
Leïla Simani vient aussi.
Oui.
D'être nommé chargé de mission pour la francophonie. Vous êtes au courant, j'espère.
Oui, je vous en ai parlé aussi tout à l'heure. Alors, heureusement que vous avez dit à ma place. Hein. Ça me fait penser que francophonie, ça rime avec orthophonie. Mais j'espère, Madame Simani, que vous allez être intransigeante sur la bonne prononciation, l'articulation, l'énonciation, que des trucs en chien, de notre belle langue française, qui est trop souvent écorchée, amociée, scintée, massacrée. Bon, là, il faut que j'enchaîne, hein, c'est ça.
Mais enchaînez, c'est pas enchaînez, enfin.
Si vous devez vous déplacer pour cette mission, Leïla, je vous conseille de ne pas utiliser un GPS, mais les cartes de Francisca Matteoli. Certaines sont un peu défraîchies, comme la peau de Daniel Morin, mais quelle poésie, quel mystère, quelles histoires. Par exemple, le plan pratique de l'exposition universelle de 1900.
Quoi ?
De quoi ? L'exposition universelle de 1900.
Ah,
c'est insensé. Et celle de Mexico, Saint-Pétersbourg, Los Angeles. Je suis sûr que la styliste que vous êtes, Leïla, appréciera la prose de Francisca. Bonne émission.
Merci, c'était Jean-Dominique.
Bonne fin d'émission.
Oh là là, magnifique.
Vous les femmes.
Oh, c'est trop horrible.
Sur France Inter.
Hervé Pochon, vous avez été touché par la mission de francophonie chargée de défendre la francophonie de Leïla Slimani. Vous avez été voir nos congénères pour leur en parler.
Oui, parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on vous aide, Leïla, pour faire avancer la francophonie. Et donc, je suis allé voir les gens dans la rue et je leur ai dit que maintenant, sur leur lieu de travail, quand ils emploieraient des mots franglais, étrangers, il y aurait une retenue sur salaire. Bon, c'est pas très élevé, c'est 20 centimes par... Voilà, hein, vous voyez, vous êtes d'accord avec moi, 20 centimes par mot, mais bon, à la fin du mois, quand vous êtes coiffeuse et que vous dites brushing toute la journée, ça fait cher.
Allez, on écoute la réaction.
J'estime qu'on doit d'abord parler français, avant de parler anglais, ou un charabia quelconque.
Mais en anglais, il y a plein de mots français, et en français, il y a plein de mots anglais. Moi, je trouve que c'est sympa.
Il faut surtout que tout le monde arrive à se comprendre.
En France, on doit d'abord parler français. Voilà, moi je dis la France aux Français. Ça fait partie de ça aussi, d'apprendre le bon français. De toute façon, les Anglais nous envahiront alors.
Ah oui.
J'ai eu du mal à parler le français.
Moi, je dis que c'est rigolo.
Faut que ça reste rigolo. Voilà, ah, c'est le bon mot de la fin.
Mais c'est la sorcière de Blanche-Neige.
Ah oui, là.
Vous avez entendu. Faut que ça reste rigolo, il ne faut pas être trop intransigeant.
Vous avez entendu cette sorcière?
Non, mais Cruella, là. C'est incroyable. Excusez-moi, madame. Enfin,
mais calmez-vous.
Vous vous sortir de votre personnage, là, il y a un moment.
Arrêtez, vous faites peur à tout le monde, madame. Hervé, vous êtes intéressé également au cas de Francesca. Et Francesca Matteoli, pardon.
Bien sûr, et comme Cruella a autant de succès, on va la
merci,
retrouver.
Merci, c'est toujours aimable.
Avec Francesca. Alors, ah non, je suis désolé parce que votre livre, Albert l'adore tellement qu'il le gardait chez lui. Moi, j'ai pas pu le voir.
C'est
et donc,
il y a une confusion. Il y a une confusion.
Et j'ai cru que votre livre parlait des cartes du tarot, vous voyez. Et donc, je suis allé voir les gens en leur disant voilà, maintenant, écoutez, il y a un tel déficit à la sécurité sociale qu'avant de faire une opération, on va tirer les cartes. Si on voit que l'opération va bien se passer, on la fait. Mais si on voit que ça va mal se passer, que ça va servir à rien, on la fait pas. Comme ça, on fait des économies.
C'est pour sauver la sécu. Hein. Donc, réaction.
Oui, mais je crois que déjà, il faudrait prendre les gens qui ont versé à la sécu. Parce qu'on soigne beaucoup de gens qui viennent rien que pour se faire soigner en France. Et c'est nous qui payons. Il faut être égoïste dans la vie, de temps en temps.
Ah ben non, ça dépend des médecins, ça. C'est pas un tirage au sort, les opérations. Je suis pas d'accord.
Alors moi, quand même pas, hein, parce que j'estime qu'il faut essayer de préserver la vie de l'homme autant qu'on peut. Super idée.
Ah, des paroles sages. On a retrouvé la sorcière.
Ça, c'est très fort, ça.
Elle a la voix de mon cacatoès aussi.
Oui, elle avait le petit rire du Ménat au départ.
Et pourtant, elle est réelle.
Oh là là, elle est magique. Hein. Si vous pouvez la retrouver et nous l'amener en studio, ce sera un joli cadeau
de
fin d'année.
Pour Noël, pour le premier de l'an.
C'est pas gagné, hein, parce que vraiment, je l'ai chopé dans la rue.
C'est pas gagné. Alors, bonne nouvelle pour vous, mesdames, nos amis, j'ai des cadeaux pour vous. Et les cadeaux, qu'est-ce qui s'en occupe? C'est Alberto.
Alors pour vous, Leïla Slimani, c'est le livre d'un collègue, Ernest Perrochon, qui a eu le prix Goncourt en 1920, qui était un très bon écrivain. Et ce livre, c'est pas le prix Goncourt. Le prix Goncourt, c'était Naine. Mais là, c'est Les Gardiennes, qui a inspiré Xavier Beauvois pour son film. C'est l'histoire de Hortense, Francine Léa, qui pendant la guerre de 14-18, avec le départ des hommes au front, se sont coltinés le travail en assumant toutes les tâches pour préserver leur milieu rural. Et c'est un combat qui était un combat féministe. Et elles ont été piètrement récompensées, puisque le droit de vote devait être accordé en 1921, en 24, il ne l'a pas été, c'est Charles de Gaulle en 46.
Merci beaucoup.
Voilà. Et pour Francisca, alors, dans votre très beau livre, vous évoquez Carte à l'appui, Dublin, la rebelle, vous évoquez notamment les Pâques sanglantes, c'est l'insurrection de Pâques 1916, quand les nationalistes irlandais se sont soulevés contre le colonisateur britannique. Et là, il y a un roman formidable, c'est à la table ronde, dans la petite Vermillon, c'est Michael Collins, une biographie de Pierre Johannon. C'est le récit d'un des grands héros de l'indépendance irlandaise, qui a une vie qui est un peu celle à la fois de Robin des Bois, de Mandrin, de Jean Moulin. C'est une vie pleine de bruit et de fureur, d'héroïsme, qui a très très mal fini. Le personnage était en même temps un type extrêmement bon vivant, joyeux, très très courageux. Michael Collins, une biographie de Pierre Johannon, à la petite Vermillon, à la table ronde. C'est un roman formidable, formidable.
Eh bien, je suis ravie.
Enfin, c'est pas un roman, c'est une biographie, je ne sais pas comment dire.
Voilà, c'est l'esprit de Noël, c'est cadeau, les amis.
Oh là là, c'est magnifique.
C'est la fin de Vous les femmes, les amis, une émission 100% femmes, animée que par des hommes. Aujourd'hui, nos invités étaient Leïla Slimani pour Sexe et mensonges aux éditions Les Arènes, paru en septembre, Parole d'honneur, paru en septembre également. Mais là, c'est une BD reportage co-écrite avec Leïla Corinne. Francisca Matteoli était présente également pour Map Cities, édition du Chêne publiée en octobre. Merci Albert Algout, merci
à vous.
Merci à vous.
À la réalisation de cette émission, Marie-Annick Rimbaud, attachée de production Christine Kern, à la technique Maxime Ingrand, programmation musicale Thierry Dupin. La semaine prochaine, pour le réveillon, nos invités seront Julia, Cédric Jean et Ovidie. Au revoir, bon dimanche à l'écoute de France Inter et moi je vous donne rendez-vous demain à 6h57.
Merci à vous Daniel Morin et à lundi donc sur France Inter.